Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanettetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettetrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir à Eric, merci encore une fois de votre fidélité d'être présent à cette nouvelle émission avec Eric Clavry qui a répondu présent à cette invitation que je lui ai faite suite à son record de la grande traversée des Pyrénées, donc le GR10. Alors ce soir, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission, vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions à Eric, mais dans un premier temps, moi je souhaite la bienvenue à Eric. Merci Eric, et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas, s'il te plaît?
Bonsoir tout le monde, et ben merci. Merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps, mais on y arrive. Moi c'est Eric Clavry. Donc je suis trailer depuis maintenant une grosse dizaine d'années, une quinzaine d'années à peu près. Donc avant je faisais du triathlon. Notamment sur distance Ironman, donc j'ai été deux fois à Hawaï, entre autres. Donc j'ai commencé en 2007 le trail. En 2009, j'ai fait mon premier ultra avec La Réunion. Je termine quatrième, le grand à la Diagonale des Fous. En 2011, j'ai été champion du monde. Après, j'ai cumulé pas mal de courses, de victoires avec l'éco-trail de Paris, la Saint-Élion, que j'ai remporté également. Après, sur ultra trail, j'ai fait des belles performances avec une sixième et une huitième place à l'UTMB en 2015 et 2018. J'ai fait aussi les courses à étapes avec une cinquième place au Marathon des Sables Maroc et une troisième place au Marathon des Sables Pérou lors de la première édition, qui était sur une semaine. J'ai fait aussi du 24 heures depuis 2018. C'était une découverte. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Donc, je fais les champions de France en 2018 et lors de mon deuxième 24 heures qui était le championnat du monde en 2019. Je bats le record de France avec 272 km et 217 mètres. Voilà, un record de France qui datait de plus de 20 ans, donc une grande fierté. Et puis cette année, l'année dernière, je me suis lancé un nouveau défi pour cette année, qui était de faire la traversée des Pyrénées. Et comme j'aime bien dans mes valeurs et dans mes objectifs garder cette notion de performance, voilà, l'idée c'était de le faire le plus rapidement possible. Donc j'étais parti sur une dizaine de jours, contrat rempli puisque je fais moins de 10 jours. Et c'est une autre grande fierté, voilà, d'avoir accompli cet objectif.
Tu m'étonnes. Bon, on pourra en reparler tout à l'heure, en précision, hein, on va rentrer un petit peu dans ce défi et dans toute cette organisation et dans ta préparation et dans. Enfin, bref, on va en parler tout à l'heure. Mais avant tout ça, moi j'aimerais savoir qui était le jeune Eric, comment est-ce que tu as commencé le sport, quels sont tes, tes premiers souvenirs de sport, par quoi t'as commencé en fait et comment t'en es venu finalement, t'es passé de tes premières expériences sportives au trail et à l'ultra trail et donc au triathlon avant.
Bah après, c'est une démarche un peu logique et naturelle en fonction de mon environnement et de mon éducation familiale, puisque mes deux parents sont à la retraite, étaient professeurs d'éducation physique et sportive. Donc voilà, déjà j'étais un peu bercé dans le sport. En plus, ils pratiquaient l'athlétisme tous les deux. Mon père faisait du décathlon, ma mère du sprint et après du marathon. Et voilà, donc depuis tout petit, j'ai traîné un petit peu sur les stades. D'ailleurs, mon père m'emmenait sur les stades dans son sac de sport. Donc voilà, depuis tout petit, j'étais dans les stades. Après, j'ai fait des courses très rapidement. Je courais avec mes parents et puis dès les premières occasions, je participais à des courses à pied. Donc la course à pied a toujours été mon fil rouge. Mon fil rouge, parce que j'ai toujours pratiqué. Bon, j'ai fait un petit intermède tennis quelques années, mais sans lâcher la course à pied. Après, je me suis tenté au vélo, mais sans succès, parce que j'étais pas assez casse-cou pour frotter comme il fallait. Donc, après 2 ans, j'ai arrêté, mais je me suis mis au triathlon à 16 ans. Et là, ça a été pour moi une révélation, parce que j'ai toujours pratiqué aussi le vélo comme ça en loisir. Et du coup, je suis venu assez naturellement au triathlon. Et c'est vrai que de par mon éducation, j'ai toujours aussi eu cette fibre d'aventure, parce que là, avec mes parents, on allait en vacances, on campait, on bivouaquait un peu n'importe où, dans la voiture ou autre. On allait randonner en montagne, on faisait pas mal de choses vraiment très nature. Donc cette âme d'aventurier, voilà, traîne depuis longtemps. Et c'est un peu pour ça que je me suis mis dans un premier temps au triathlon, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu l'aventure quand même de se lancer sur l'Ironman et dans les années 2000 et puis après le trail, parce que voilà, ça a été aussi un petit peu cette notion d'aventure. Et puis voilà, c'est un petit peu, et là encore plus avec le GR10 qui est vraiment c'est vraiment ce qui m'attire dans les épreuves sportives.
Et tes parents aussi étaient à haut niveau sportif comme toi ou...
Oh, mes parents se débrouillaient bien pour indication. Voilà, ma mère courait le marathon en 3h20, ce qui est tout à fait honnête. Donc elle en a fait 4 ou 5 marathons en 3h20. Donc voilà, c'est tout à fait honnête. Mon père était lanceur de javelot et décathlonien, avec un record de Basse-Normandie au décathlon en vétéran. Voilà, donc il avait quand même un bon niveau de performance. Après, c'était pas forcément dans l'élite, mais c'était des très bons niveaux de performance déjà.
D'accord. Donc toi, ce niveau de performance-là, il est arrivé pour toi assez rapidement finalement, ou c'est quelque chose qui est venu sur le tard? Est-ce que dès le départ, en fait, dans les sports que tu pratiquais, tu étais dans le haut du panier, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le long terme? Est-ce que tu dirais en fait que tu as eu des prédispositions dès le départ, ou est-ce que c'est à force de travail que tu as fini par avoir des résultats
Les prédispositions, j'y crois effectivement, mais après, je pense que ça, c'est loin de faire tout, bien au contraire. Et plus on va dans l'ultra, moins c'est le cas, je trouve. À titre d'exemple, voilà, moi, c'est vrai que j'ai jamais performé étant jeune. Enfin, je me rappelle les premières courses. Voilà, j'étais en milieu de peloton, peut-être en fin de peloton, mais j'étais rarement. Enfin, j'étais jamais même sur les podiums ou autres. Après, c'est venu au fil du temps, effectivement, à force de persévérance, de travail aussi, et puis de régularité dans les entraînements, parce qu'avec mes parents j'allais courir assez régulièrement. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis voilà, ils m'ont aussi beaucoup inculqué cette orientation sur l'ultra, parce que quand j'allais courir, même très jeune, voilà, je faisais des tours du Lot, je m'en rappelle, je faisais des tours du quartier pendant les vacances, et puis j'arrêtais pas de courir pendant une demi-heure alors que j'avais 8 ans, ou même une heure. Et voilà, c'est venu naturellement. Donc j'étais pas forcément performant pour le cours, à cet âge-là où les distances sont relativement courtes. Par contre, je m'entraînais je développais mes qualités d'endurance quelque part, et ce qui m'a permis ensuite d'être performant sur des épreuves d'endurance comme l'Ironman, comme le trail, puis l'ultra trail et plus encore.
D'accord, très bien. Alors, tu ne le sais pas, mais je vais te l'apprendre. En fait, on s'est déjà croisés. Parce que tu étais sur mon premier trail que j'ai fait, donc qui était le trail du vignoble. C'est mon tout premier trail.
D'accord.
Sur le nocturne. Et en fait, à cette époque-là, donc de mémoire, c'était en 2013.
Ok.
Et donc toi, tu faisais le 20 plus 40 le lendemain. Et,
exact.
Et moi, à cette époque-là, ça me semblait mais tellement hallucinant de pouvoir faire des choses comme ça, parce que voilà, c'était mon premier trail. Là, quand j'ai terminé cette épreuve, j'étais cuit, j'étais au bout de ma vie. Et je me souviens en fait de toi au départ. Et en fait, il y avait toute cette acclamation un petit peu, parce que en plus à cette époque-là, tu venais de faire de très belles performances. Alors de mémoire, je te raconte ça de mémoire. Hein. Et le speaker annonçait que tu étais là, qu'il y avait des gens, et tu étais là, Eric, champion du monde et tout. Et moi, je me disais, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Parce que, bon, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Mais comment est-ce que toi, tu as fait pour gérer ça et ces regards un petit peu quand on revient finalement dans son village natal? Parce que tu es originaire de Normandie, mais tu habites
dans le vignoble atlantique.
Comment est-ce qu'on fait pour gérer cet aspect-là de notoriété, de célébrité?
Bon, après, faut rien exagérer, comme je le dis de temps en temps. Voilà, je m'appelle pas non plus Kylian Mbappé. Hein, voilà, on reste dans le petit monde du trail où il faut quand même savoir rester humble un petit peu. Effectivement, chez moi, je suis connu par les trailers. Après, les autres, j'ai même des gens dans ma commune. Bon, maintenant, dans ma commune, ils me connaissent parce qu'il y a quelques articles qui sont parus, notamment après le GR10 ou quelques courses. Mais voilà, je me balade dans le vignoble ou sur Nantes ou quoi que ce soit. Personne me connaît. Il faut, voilà, sur les courses, c'est plus naturel parce que c'est des pratiquants, c'est des gens qui s'intéressent. Donc, forcément, voilà, il y a le regard, il y a ce regard-là. Mais c'est pas gênant parce que c'est jamais fait avec méchanceté. Et quand c'est fait avec bienveillance, voilà, quand c'est des regards bienveillants et sympathiques, c'est toujours très agréable. Et après, j'ai tendance, moi, à m'entraîner de par ma gestion de l'emploi du temps et tout ça, à m'entraîner relativement seul parce que c'est assez aléatoire dans mes horaires. Et donc, je m'entraîne seul. Je vois pas forcément beaucoup de monde non plus. J'ai malheureusement pas forcément l'occasion de beaucoup courir dans la région non plus. Bah parce que c'est vrai que quand je fais des courses, c'est plutôt des courses niveau national, international. Enfin, voilà, des courses d'un autre niveau. Alors, j'essaye quand c'est possible de faire des courses locales, enfin, régionales. Mais c'est pas forcément toujours évident au vu du planning de la saison. D'autant plus que moi, je suis pas quelqu'un qui court beaucoup, beaucoup. Je suis plus sur la qualité que la quantité. Et, voilà, donc non, ça me gêne pas du tout. Et au contraire, c'est ça fait plaisir. Et puis ça fait d'autant plus plaisir quand on a l'opportunité sur des courses comme ça de rencontrer des gens et de partager un petit peu avec eux l'expérience que j'ai eu la chance de vivre sur certaines courses et autres. C'est plutôt sympa.
Alors ça, c'est vrai, je pense que ça, ce côté, cet aspect partage et cet aspect rencontre de tous les milieux sociaux différents qu'on peut rencontrer sur les trails, parce que ça, le trail, c'est un sport qui permet ça, de pouvoir être au départ à côté de quelqu'un qui est peut-être avocat, médecin, et puis d'avoir aussi des gens qui sont plus à des statuts sociaux qui sont similaires aux nôtres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui va manquer si l'aspect compétition comme ça est amené à être réduit. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir du trail avec les événements qu'on connaît maintenant?
Après, tout va dépendre des conditions qui sont mises en place, quoi. C'est vrai que oui, c'est nécessaire de se protéger, c'est nécessaire de faire tout ça. Après, faut pas vouloir rentrer, je pense, dans la surprotection et dans l'hystérie quelque part, dans la panique, quoi. Et je voudrais pas que ça rentre là-dedans, quoi. Après, non, je pense que ça va dépendre de l'évolution des circonstances sanitaires, mais il n'y a pas de raison que ça change. Après, il y aura peut-être un petit peu d'évolution, notamment sur le développement, j'entends. Plus des FKT, des fastest no time, c'est-à-dire des records entre guillemets sur comme j'ai pu faire sur le GR10 ou comme il y avait sur le GR20 ou sur d'autres trails, enfin sur d'autres traces pardon, des trucs plus off quoi en fait, officialisés. Peut-être ça sera amené à se développer mais malgré tout, même si on s'oriente pour certains plus là-dessus, il y a moyen quand même de le partager et je pense que ce que j'ai vécu et ce que j'ai essayé de faire vivre en juillet là sur le GR10 quelque part c'en est aussi une démonstration parce que à mon sens je trouve que le partage a été réussi. Alors bien entendu on n'était pas 500 et de toute façon je l'aurais pas souhaité parce qu'effectivement on était encore au niveau sanitaire un peu limite, mais on respectait quand même les distances, tout ça, enfin tout le monde était prudent. Il n'y avait pas 500 personnes à l'arrivée et tout le monde était prudent, tout le monde était été autonome et respectueux envers des autres en gardant ses distances et tout. Donc, je pense qu'après, ça, c'est plus un acte de chacun de respecter les choses, d'être respectueux de soi-même et des autres, d'être autonome par rapport à tout ça, quoi.
Ah, c'est sûr, à mon avis, c'est vrai que les organisateurs vont devoir trouver des solutions, s'adapter. C'est vrai qu'on voit beaucoup de. Et puis en plus, j'en fais partie aussi des gens qui organisent des compétitions off, enfin, compétitions entre guillemets, parce que c'est pas.
Oui.
Voilà, et je pense que c'est vrai que tout ça, ça va bien s'organiser, se démocratiser, mais je pense qu'il y aura quand même un manque du côté partage qu'on retrouve beaucoup dans le trail, même si sur un off, on a l'occasion de partager avec des gens, mais c'est sûr qu'on partage moins. Enfin, voilà. Alors, pour rappel, pour les gens qui viennent de nous rejoindre et qui ne seraient pas habitués à l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Eric. Et donc, moi, je les affiche comme ça, hop, à l'écran. Donc là, déjà, on a Bernard qui nous dit hello, bonjour Eric, ravi du retour de l'interview du live du mercredi. Et oui, donc, parce que c'est tous les mercredis, sauf pendant mes vacances, j'ai pas fait de live. Du coup, Bernard qui nous pose une question. Eric, est-ce que tu trouves aujourd'hui ton plaisir dans le toujours plus long ?
C'est pas forcément le toujours plus long qui m'attire. C'est d'autres choses, c'est d'autres opportunités. Je suis pas sur le toujours plus long et je suis pas à communiquer là-dessus justement parce que quelqu'un qui fait du 10 km et qui s'épanouit sur 10 km, c'est super, quoi. Et il faut surtout pas qu'il change et qu'il veuille aller faire à tout prix un marathon ou un UTMB parce qu'il faut le faire, quoi. Parce que c'est dans la culture de faire ça et que si tu le fais pas, t'es, entre guillemets, hors circuit, quoi. Non, il faut chacun trouve ça son truc. Moi, en fait, c'est pas forcément le toujours plus long. C'est, alors, pour le 24 heures, par exemple, puisque j'ai commencé le 24 heures là, en 2018, ça a été mon premier. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis 1997, donc ça fait très 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 longtemps. Et là, j'ai eu l'opportunité de le faire parce que là, cette saison-là, en fin de saison, j'avais rien de trop prévu. Donc là, le championnat de France se calait bien, donc je l'ai fait. Là, je fais le GR10, mais là, c'est plus parce que, puis il y a l'âge qui avance aussi. Donc forcément, plus l'âge avance, et plus moins on est performant sur des distances courtes. Ça, c'est biologique, hein. Et puis je trouve toujours mon plaisir dans la performance. Et là, du coup, c'est pas une notion de surdistance, c'est une notion d'aventure. Et je suis vraiment plus attiré par l'aventure, comme je le disais en préambule. C'est que moi, l'aventure me fait vraiment vibrer. Et je vais plus là-dedans, je m'éclate sur un truc comme le GR10 parce qu'effectivement, il y a le défi sportif de l'épreuve, mais il y a tout ce qui est préparation. Et avant, c'est 10 mois de préparation, quoi. C'est très, très... C'est intense et important parce que ça permet de réaliser ce qui est fait. Donc, c'est plus le côté aventure qui m'attire que forcément de faire des surdistances, quoi.
Alors, moi, j'aurais même tendance à accentuer ça. Je pense que c'est même pas 10 mois de préparation, c'est que tout ce que tu as fait avant était finalement une préparation pour cette expérience-là aussi. Et que sans toute cette expérience-là que tu as acquérie avant, c'est sûr que c'était 10 mois spécifiques pour cet événement-là. Mais... Enfin voilà, c'est pour dire que s'il ne suffit pas de faire 10 mois d'entraînement intensif et puis on arrive à faire ce que tu as fait, puisque tout ton bagage derrière, comme tu nous l'as présenté au tout début, ça a dû te servir pour arriver à combattre certaines barrières que tu as dû rencontrer pendant l'épreuve.
Complètement, et je me permets de rebondir juste sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, le bagage de toutes ces années, en fait, comme je l'expliquais, j'ai fait du tennis, mais j'ai fait du cyclisme, j'ai fait du duathlon, du triathlon, de l'Ironman, j'ai fait du trail, de l'ultra-trail, j'ai fait des courses à étapes, j'ai fait après du 24 heures. En fait, c'est comme un millefeuille. À chaque expérience et opportunité d'une nouvelle expérience, c'est une feuille supplémentaire qui se rajoute, une feuille d'expérience supplémentaire qui se rajoute, en termes de préparation mentale, mais en termes aussi d'expérience physique, d'expérience de la gestion de tout ça. Et c'est ce qui permet à terme de réussir, quoi. C'est vraiment à chaque discipline des nouveaux outils qui permettent de s'épanouir et de réussir encore plus, de réussir personnellement. Je parle pas de réussir dans la performance, là, pour le coup. Je parle de réussite personnelle. Et c'est ça qui est super intéressant aussi.
Et alors pour les auditeurs, ça me fait penser à j'ai reçu Guillaume Artus qui était venu donc dans une des premières émissions et il a dit une phrase que je trouve qui est bien à placer maintenant. Il a dit que finalement quand tous les week-ends tu vas tous les samedis tu passes toute la nuit dehors et finalement quand t'es sur un UTMB de nuit ça devient un dimanche.
Ouais.
C'est vraiment, ça devient ta norme en fait, ça devient quelque chose de classique. Donc c'est vrai que tout ce que tu as fait avant, sert à préparer tout ça.
Exactement.
Alors moi, juste parce qu'on a là, et ça y est, tu vois, comme je disais en off, les gens ils se chauffent un petit peu avant de poser des questions. Là, ça y est, c'est parti.
Ah, je vois que ça défile. Ouais. J'ai trouvé le truc où il y a les questions. Ah, ça défile. Il y
en a quelques-unes. C'est toujours pareil. Mais c'est très bien. Ça me laisse aussi moi le temps de parler avant de poser les questions. juste avant qu'on affiche les questions, parce que là, ça commence à défiler. J'ai juste une question parce que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé. Tu habites en Loire-Atlantique, c'est le département qui est un des plus plats, si ce n'est le plus plat de France.
C'est le département le plus bas en altitude de France, effectivement.
Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se préparer dans un pays plat à parcourir des montagnes qui sont si hautes et qui ont autant de dénivelé?
Bah, c'est la question classique, effectivement, que tout le monde, c'est la première question que tout le monde me pose. Mais comment tu fais pour préparer un truc, un UTMB ou un machin, et puis après, allez. En fait, je pars du principe que tout est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Après, le reste, c'est juste se donner des excuses. Enfin, des excuses. C'est pas du tout méchant ce que je dis. Hein. Voilà, faut pas y voir la méchanceté ou quoi que ce soit, ou de la critique. Je pense que vraiment, quand on a la volonté et la détermination pour faire quelque chose, eh ben, on peut y arriver. Il faut être patient, il faut travailler, il faut rester déterminé, il faut croire en soi et puis y aller. Alors c'est pas toujours facile pour tout, hein, mais voilà. Et ben là en l'occurrence, j'adapte mon entraînement par rapport à ce que j'ai. Alors j'ai une grosse lacune qui est les descentes, puisque les descentes, ça c'est clair que je peux pas les travailler. J'ai pas de descentes suffisamment longues et techniques pour pouvoir les travailler chez moi. Donc c'est Nance Peters qui disait ça quand il a gagné son étape par rapport à celui qui l'accompagnait. Je suis une bique en descente, quoi. Mais c'est ça, parce que je peux pas les travailler. Par contre, les montées, c'est quoi? C'est de la puissance. Bah, je fais les deux tiers de mon volume horaire en entraînement, c'est du vélo. En plus, je fais du renforcement musculaire. Et au final, je ne cours que un tiers de mon volume d'entraînement. C'est-à-dire que je cours, même pour préparer un UTMB, même pour préparer un 24 heures, je cours à peu près entre 70 et 100 km par semaine, ce qui est très peu par rapport à la majorité des autres coureurs, hein. D'accord. De mon niveau, j'entends. Donc après voilà, il faut adapter. Je fais aussi beaucoup de préparation mentale, bah, pour un GR10, voilà, beaucoup de préparation, bah, du parcours, de la gestion. Bah, j'avais notamment contacté Guillaume Artus. Enfin, c'est lui qui m'avait contacté d'ailleurs. On avait échangé, il m'avait beaucoup apporté pour la gestion du sommeil, parce que lui, il a l'habitude de ce genre d'expédition entre guillemets un peu plus qu'ultra, d'aventure. Et donc voilà, c'est beaucoup de recherche, de renseignements sur le sommeil, comment on peut faire, comment on peut, là, sur la nutrition aussi, c'est super important, sur la logistique, comment s'organiser, où dormir, comment, enfin, il y a beaucoup de choses à travailler et c'est ce qui rend la chose intéressante. Mais après, c'est vrai que la préparation sportive pour la montagne, au final, je me rends compte que c'est pas parce qu'on habite en plaine qu'on peut pas être performé en montagne, ou c'est pas parce que moi j'ai le souvenir d'un exemple, c'est un de mes idoles qui s'appelle Émile Zatopek, enfin qui s'appelait Émile Zatopek, malheureusement il est plus là, et j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai des bouquins de lui qui sont très 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 rares, et dans ses interviews il disait, enfin puis c'est voilà, on peut le trouver n'importe où, bon il a vécu la guerre et tout ça, et pendant la guerre il passait en douce la nuit au-dessus du mur du stade pour aller s'entraîner, alors que ça canardait à droite à gauche, ça s'entraînait sur le stade et rentrait chez lui le soir. Il allait s'entraîner en Rangers dans la neige, voilà. Après, la 99% des, enfin 98% des gens, alors on va dire, ils iraient pas, ils sortiraient pas, ils courraient pas parce que c'est dangereux, parce que c'est ceci. Quand on, alors je dis pas qu'après il y a pas de risque dans ce qu'on fait, mais quand on veut, on peut, et il faut rester vraiment volontaire dans ce qu'on veut, quoi. C'est pas parce qu'on habite en plaine qu'on peut pas performer en montagne. Et voilà, j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, bah, j'ai réussi à faire 6e et 8e à l'UTMB, 8e en 2018. Bon, il y avait quand même un peu de niveau, hein, sur la ligne de départ. En 2015 aussi, il y avait du niveau. Et j'ai quand même réussi à faire 2 top 10. Et pourtant, j'habite en plaine et je vais quasiment pas en montagne, hein, pour préparer l'UTMB. Je vais, allez, on va dire 2 fois 5 jours en montagne pour m'y préparer un petit peu, quoi, m'y acclimater un petit peu. J'ai fait 2 fois 4e et 1 fois 6e à la Diagonale des Fous. Et c'est pareil, j'habitais sur Nantes. Et pourtant, c'est super technique à La Réunion. Donc voilà, c'est extrême, quoi. Donc voilà, pour dire vraiment qu'il faut vraiment croire en soi, croire en ses capacités et mettre les moyens pour y arriver, quoi.
Je suis complètement d'accord avec ça. Et dans beaucoup d'émissions, j'ai déjà souvent nommé des références comme ça en Bretagne. On a aussi Jérôme Lucas, et là récemment, qui a été accompagné de Jean-Marc Lavigne, tous les deux, ils ont fait 8e, donc 8e et 9e, ils ont fini ensemble à la Swiss Peak 360, donc 320, je crois, un peu moins de 320 km, là, qui est cette année en Suisse. Et pourtant, ils habitent tous les deux en Bretagne, et qui n'est pas connu pour ses grandes montagnes, n'est-ce pas? Et pour autant, ils y arrivent. Donc, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ça, que à force de travail, à force de volonté, on peut y arriver si on a vraiment, vraiment l'envie, et si on est aussi capable d'avoir envie de faire des concessions et de se dire, bon, bah, c'est vrai que je vais peut-être passer un peu moins de temps en famille, un peu moins de temps avec mes enfants, un peu moins de temps ci, un peu moins de temps ça, pour aller s'entraîner. Si on sait pourquoi on le fait.
Et j'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier Jérôme qui est venu m'accompagner pendant 3-4 jours dans les Pyrénées avec le team Mega Club. Voilà, ils sont vraiment venus, ils ont fait un travail de paceur de malade, vraiment, ils ont été exceptionnels sur la traversée, c'était génial. Et du coup, Jérôme m'a accompagné quasiment 3 journées en intégrale sur la fin du parcours, donc ça a été vraiment des moments super avec lui.
D'accord.
Pour Jérôme.
Ok.
Bravo pour ta perf en Suisse sur la pic.
On en parlera la semaine prochaine. Alors, pas avec Jérôme, mais avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est parti pour les questions. Donc, Aline, bonsoir. Tu dis que tu es dans la qualité plus que la quantité. Comment t'entraînes-tu et combien de fois par semaine?
Comme je le disais, moi, le vélo, alors je vais parler que du vélo et de la course à pied, parce qu'après il y a le renfo, il y a d'autres choses, la prépa mentale et tout, qui pourtant sont primordiales et vraiment hyper importantes dans la préparation. Donc je vais parler quand même principalement sportif, donc vélo, course à pied. Vélo, je suis ancien triathlète, c'est-à-dire que je roule, entre 300 et 400, je peux rouler jusqu'à 300-400 km par semaine, tout à droite, comme un bourrin et tout en puissance, quoi. Comme un triathlète, que j'assume avoir été, et voilà. Donc en puissance, donc c'est vraiment le travail de puissance et de volume et de développement de l'endurance, quoi. Et après, en course à pied, je fais, même pour préparer un UTMB, hein, je fais très 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 rarement des sorties de plus de 2 heures, donc très court. Je vais faire, en moyenne 6 séances par semaine à pied. Donc pour une distance de 70-100 km à peu près, mais hebdomadaire. Et dans ces 6 séances moyennes, je vais faire 2-3 séances de qualité, c'est-à-dire en général, il y a une VMA, VMA courte, il y a une un travail de côte, PMA, et puis un travail de seuil ou d'allure, quoi. Et après, c'est du footing de régénération classique. Donc globalement, c'est la trame très globale de mon entraînement.
D'accord, donc il y a beaucoup quand même, tu axes beaucoup quand même sur le vélo. C'est Antoine Guillon aussi qui fait beaucoup ça, et qui recommande ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'entraînement croisé.
Ça se développe énormément depuis quelques années, effectivement.
Ouais. Bon, va falloir que je m'y mette.
Eh oui, il n'y a pas de secret.
J'aime pas les voitures. Très très bonne question, Aline, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Quand est-ce que tu as su que tu étais prêt pour un ultra?
On n'est pas prêt pour un ultra. c'est hyper dur comme question. Ouais. Pour exemple, à 9 ans et 6 mois jour pour jour, mon père, il entraînait un groupe de jogging. Mais c'est culturel, c'est éducatif en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on allait courir une heure et demie dans la forêt, alors que j'avais 7 ans, 8 ans. On allait courir sur la plage. Je me rappelle l'été sur la Palmyre, je faisais, mes parents, ils me lâchaient au phare, et puis je faisais 4,5 km pour rentrer à la maison sur la plage, quoi. Donc, et ça, j'avais 8-9 ans, hein. Donc déjà, faut les parents qui laissent leur enfant partir comme ça tout seul, quoi. Donc c'est vraiment une culture. Donc mon père, comme je disais, a entraîné un club de jogging, et à 9 ans et demi, tous les ans, ils faisaient un test d'une heure sur piste. Et donc, il leur faisait faire un test d'une heure pour se caler, pour voir un petit peu leur évolution, et puis pour faire un petit test. Et une année, donc j'avais 9 ans et demi, ils me proposent le soir, tiens, ça te dit de venir faire le test? J'avais 9 ans et demi. Déjà, il faut trouver le père qui va proposer à son fils de 9 ans et demi de faire une heure sur piste. Et moi, il m'a proposé, hein, il m'a pas imposé du tout. Donc j'ai dit oui, parce que pour moi déjà c'était un peu culturel d'aller courir comme ça des heures, et voilà. Et j'avais fait, alors voilà, j'avais fait en plus une belle perf, parce que j'avais fait 11 km 420. en une heure à 9 ans et demi. Donc, c'est pas bien. Mal. Enfin, maintenant j'en suis assez fier. À l'époque, je m'en rendais pas du tout compte. Mmh. Même si ça me faisait plaisir de faire mieux que les joggeurs qui étaient dans le club, c'était assez rigolo. Mais voilà, après, être prêt, j'ai toujours été attiré par ça parce que j'ai eu l'éducation qui m'a poussé vers ça. Quand on allait faire, je sais pas, dès que j'avais à partir de 2-3 ans, j'ai des photos, on allait faire des randos de 2-3 jours dans les Pyrénées avec des bivouacs en montagne, quoi. Ça contribue à cette démarche d'être prêt plus ou moins pour l'ultra. En fait, ça vient naturellement, ça vient avec l'éducation surtout, quoi.
Ouais, donc finalement, en fait, toi, c'est devenu presque une évolution logique, sans même te poser de questions, d'augmenter les distances comme ça, un petit peu progressivement. Et puis 50, 80, 100, 170, voilà, c'est devenu
c'est le goût de l'aventure, en fait. C'est pas le goût d'allonger les distances, c'est le goût d'aller à l'aventure et de se découvrir aussi dans des nouvelles disciplines. Ouais, mais je m'éclate autant. Excuse-moi, je te coupe, mais... J'ai un copain qui ça m'avait fait rire sa réflexion par rapport à moi, c'est Romuald de Pape, donc voilà, un bon très bon coureur, et qui m'a dit un jour, on avait fait le trail d'Erquy entre Landes et Bruyères en Bretagne, et à la fin il était vraiment le couteau suisse de la course à pied. C'est vrai que je fais du 10 km, je fais du cross l'hiver où je suis pas dans les meilleurs parce que c'est très rapide, mais je me déroule pas trop trop mal quand même. 10 km, bon, encore pendant le confinement, j'en ai fait un sur une boucle d'un kilomètre là à côté de chez moi pour rester dans la zone. Je l'ai fait en 33-10 tout seul avec du vent. C'était plutôt pas mal. Et je fais le GR10 qui fait 900 bornes où ça marche plutôt bien. En fait, j'ai une palette qui est hyper grande et c'est vrai que ça fait assez sourire. Mais je m'éclate dans tout ce qui touche à la course à pied. En fait, c'est vraiment mon fil rouge, c'est vraiment la course à pied. Après, c'est juste des expériences et des opportunités qui se présentent. C'est surtout ça.
D'accord. Alors, justement, en fait, moi, j'ai une question aussi par rapport à parce que tu emploies souvent le mot aventure. C'est quelque chose qui revient souvent là dans ton discours. À partir de quel moment est-ce que tu penses qu'on passe plus dans la catégorie trail, mais on passe à la catégorie aventure?
Je dirais à partir du moment où... Après, je pense que la notion est très personnelle, c'est quelque chose qui est pas définissable, quoi. C'est à partir du moment où on s'engage sur quelque chose qu'on connaît pas où on connaît pas spécialement comment ça va se passer, quoi. Mais pour moi, en tout cas, clairement... On me demande souvent, c'est quoi ton prochain défi? C'est le GR20, c'est ceci. Pour moi, le GR20, pour moi, c'est pas une aventure, parce que le GR20, c'est plus assimilable à un UTMB. Un UTMB, c'est la course d'un jour. Un jour où, enfin, il y a un départ, une arrivée, et puis on dort pas, nous, on dort pas en tête. Après, on dort très peu, même quand on est en milieu, voire en fin de peloton. Et ça, c'est la course d'un jour, quoi. Alors, ça peut être une aventure si on s'engage. Moi, ma première diagonale des fous, c'était une aventure. Je me présentais sur le départ. Moi, je partais pour une aventure. Je m'étais pas mis de stress. Non, moi, c'était de l'excitation, quoi. Maintenant, c'est plus pour moi des courses de plusieurs jours où il y a vraiment toute une organisation derrière, une gestion autre que la gestion de l'effort. Il y a une gestion du sommeil, où il y a une gestion de l'alimentation, même si ça se retrouve aussi sur des UTMB. Mais là, c'est une gestion qui doit être vraiment organisé, prévu et calé bien en amont parce que là, moi, sur le GR10, je dormais pas n'importe où, quoi. J'avais préparé qu'il fallait que je dorme à telle place parce qu'on dormait mieux en vallée quand on dort mieux en basse altitude qu'en haute altitude. Je dormirais mieux dans un camping-car que dans un refuge. Je bénéficiais en plus de mon assurance. Voilà, c'est vraiment l'organisation. En fait, c'est aventure, expédition, quoi, quelque part. C'est dans la globalité du truc, quoi. L'organisation globale qui fait que ça devient une aventure. Voilà, pour moi. Mais à 24 heures, c'est une aventure c'est l'aventure d'une vie, hein, parce que on passe par tellement d'états émotionnels, tellement de phases et de, enfin, c'est juste hallucinant, quoi.
C'est très dépendant de chacun, parce que moi, quand tu parles de ça, de certaines personnes pour qui ça peut être une aventure de faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ça me fait penser à des amis qui sont partis sur un 57 km et ils étaient avec un kit de survie et tout dans le sac à dos. Enfin, vraiment, ils étaient équipés. Alors oui, c'était un try-off, mais pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu et c'était vraiment comme s'ils partaient à l'aventure, quoi. Et donc ouais c'est très vrai. Ouais, j'avais pas cette, pour moi, cette la notion d'aventure, c'était à partir du moment où chaque jour, en fait, pourrait se répéter à l'infini, parce que quand tu arrives à un certain moment, en fait, quand tu es sur un trail qui va être par exemple un UTMB ou plus court, tu peux manger des choses que tu ne vas pas forcément manger chez toi tous les jours, etc. Alors que si tu rentres dans des aventures qui durent 10 jours, bah, tu ne vas pas te nourrir de gel et de bar et etc. tous les jours. Et pour moi, en fait, c'était un petit peu ça ma définition. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
C'est, comme je te dis, c'est propre à chacun. Moi, j'aurais d'autres critères parce que c'est vrai que la nutrition, tu vois, sur le GR10, j'ai mangé des repas normaux. Voilà, c'était de la nourriture lyophilisée. Enfin, c'était du lyophilisé, bien entendu, mais c'était des plats Sodebo lyophilisés. Enfin, des plats spécialement conçus par Sodebo qui étaient lyophilisés, mais qui étaient adaptés à l'effort et tout ça. Voilà, c'est des plats que Tobacoville, le navigateur, utilise oui. Notamment. C'était des repas somme toute assez classiques. Après, c'est vrai que je mangeais 5 fois par jour, quoi. Mais enfin, je faisais au moins 5 repas par jour, sans compter les encas en col et tout ça. Donc c'est vrai que je mangeais pas mal. Donc je donne déjà la réponse. Peut-être que certains poseront. Non, je n'ai pas perdu de poids à la fin de mon GR10. C'est vrai que j'ai bien mangé. Mais et puis après, c'est vrai qu'on fait de l'œdème. Enfin, on stocke de l'eau, on prend de la masse musculaire et autres. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, après, non, c'est vraiment propre à chacun. Moi, la nourriture, ouais, non, c'est pas spécial. Moi, après, c'est vrai que là, la particularité, c'était que moi qui dors normalement 8 heures par nuit, là, sur le GR10, il a fallu que je fasse 900 bornes en l'occurrence en 9 jours et 9 heures, en dormant 4 heures par jour. Moi, pour moi, c'était ma grosse crainte au début, quoi.
Comment est-ce que tu faisais? Tu faisais ça en 4 heures non-stop ou c'était découpé en...
Non, 4 heures non-stop, ouais. Alors, c'était pas tout à fait ça. Je faisais 4 heures non-stop et je rajoutais une sieste de 25 minutes pendant la journée pour complémenter un petit peu la nuit et voilà, pour repartir encore mieux après. Mais voilà, moi, dormir 4 heures par jour en faisant 95 bornes et 5500 mètres de dénivelé quotidien, pour moi, c'était... Je savais que je pouvais le faire, mais je l'avais jamais fait, quoi. C'est surtout, moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était surtout par rapport à cette notion de sommeil. Parce que, comme je le dis, moi, j'ai besoin de dormir 8 heures par jour. Pour moi, dormir 4 heures par jour, mais c'est intenable. Mais le corps et le mental s'adaptent, c'est exceptionnel.
Et justement, tu parlais de Tobacoville, j'ai écouté un podcast de lui, donc sur le podcast Extraterrien, je crois que je le recommande à chaque émission que je le fais, en fait, ce podcast. Et j'ai écouté donc du coup Tobacoville, qui est un très très grand navigateur, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Est-ce que tu t'es inspiré ou tu as échangé peut-être avec des navigateurs au sujet du sommeil ou avant de partir sur cette aventure?
Bah avec Thomas, ouais, j'ai échangé. Il est sur le maxi trimaran Sodebo, donc c'est pour ça que voilà, j'ai pu faire sa connaissance et échanger avec lui. Mais j'ai notamment échangé, comme on le disait tout à l'heure, avec Guillaume Artus sur le sommeil. J'ai échangé avec des coureurs qui ont fait la Transpyrénée à l'époque, qui m'ont donné des conseils en or. Et c'est en échangeant et ça m'a permis de me rassurer parce que j'ai vu que voilà, potentiellement c'était faisable. Si quelqu'un d'autre y arrive, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. Je pars de ce principe-là. Donc voilà, s'il y en a qui arrivent à faire la traversée des Pyrénées en dormant 4 heures par jour. Je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Donc déjà et après, comme je le dis, je bosse énormément sur le mental. Et ça, pour le coup, c'est vraiment principalement mental, quoi. C'est-à-dire, faut pas se mettre de barrière, quoi. Faut pas se mettre de barrière et commencer à se dire, ça va être compliqué, machin. C'est pour moi le mur des 3 heures au marathon ou le mur du 30e kilomètre ou la barrière des 4 heures. En fait, à partir du moment où on emploie cette terminologie, mur, barrière, barre, c'est déjà qu'on se met une limite. Parce qu'une un mur et une barrière, par définition, ce n'est pas franchissable. Sauf ceux qui font du 3000 steeple. Non, mais sinon, ce n'est pas franchissable. Donc, à partir du moment où on se dit je vais passer sous la barre des 3 heures au marathon, non, on ne passe pas sous une barre, quoi. Je vais faire 2h55, mais je ne vais pas passer sous la barre des 3 heures au marathon.
Point.
C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et là, moi, quand j'ai défini ma dizaine de jours sur le GR10, je me suis pas dit, le record, il est 12 jours et 10 heures, faut que je batte ce record. Parce qu'à partir du moment où tu dis déjà que c'est un record que tu vas battre, un record, par définition, c'est la meilleure performance qui a été établie sur le truc. Là, tu vas commencer à, même inconsciemment, ça va te faire cogiter à dire, il n'y a personne qui est passé là-dessous. Je peux pas passer dessous, quoi, parce qu'il y a personne d'autre que le gars qui l'a fait qui est passé dessous. Moi, j'ai même pas pensé au record, quoi. Moi, je voulais faire 10 jours, c'est tout. Je suis parti sur mes 10 jours. Et le reste, ce qui existait déjà, je m'en fiche complètement. Et c'est pour ça, quand je pars sur une course, quelle qu'elle soit, que ce soit l'UTMB ou tout ça, je regarde jamais les start list, je regarde jamais le pédigré des autres coureurs qui s'alignent. Je m'en fiche de tout ça. Moi, je pars par rapport à ce que je pense pouvoir valoir par rapport à mon potentiel, en étant confiant par rapport à ça. Et je pense que je pense que dans un certain point, c'est ce qui me permet de performer. En plus de, effectivement, mon passé, toute mon éducation et tout ce que j'ai vécu avant, quoi, en termes d'entraînement.
Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté, que au final, tu prévois en fait un certain temps que tu vas mettre sur un trail, même un trail qui est plus court. Tu te dis, tiens, je regarde à peu près le classement, je regarde ce que j'ai l'habitude de faire. Normalement, je devrais mettre à peu près temps. Et très souvent, tu tombes dans, alors à un quart d'heure près, hein, forcément, on n'est pas tous des métronomes, mais tu tombes à peu près dans ce créneau-là. Et du coup, je me suis dit cet été, mais si je me disais mentalement avant, je mets une heure de moins que ce qui est prévu, je vais terminer dans les 100 premiers, alors que c'est très challengeant pour moi, est-ce que ça changerait quelque chose? Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer sur le prochain officiel que je vais faire. Et je pense vraiment vrai que cette barrière mentale du coup qu'on se met, et ça peut jouer un petit peu, du moins dans la balance.
Des pensées limitantes ou non limitantes, enfin voilà, ou facilitantes, mais il faut rentrer dans des pensées facilitantes et non pas dans des pensées limitantes. Et quand on se met barrière, tout ça, après, si tu vises une heure de moins que ce que tu aurais mis en temps normal, tu vas partir sur une heure de moins. Peut-être que tu le feras pas. Peut-être que tu vas faire qu'une demi-heure de moins. Mais déjà, tu auras gagné une demi-heure par rapport à ce que tu pensais faire. C'est énorme. Moi, si je pense vouloir faire 10 jours sur les Pyrénées, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi parce que les conditions météo, enfin, tout est. J'ai vraiment eu aussi un peu de chance. J'ai vraiment une bonne équipe. Enfin, tout a été pour que je fasse ce temps-là. Mais j'aurais mis 11 jours et demi. J'aurais mis 2 jours de plus. Bah ouais, peut-être que ça l'aurait pas fait. Je pense que j'étais un peu déçu parce que j'aurais pas atteint mon objectif de 10 jours, mais j'aurais quand même eu le record.
Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Bah oui, c'est pour ça que tu t'es mis un objectif challengeant.
Il faut pas, ouais, un objectif challengeant et réalisable quand même. Enfin, réalisable par rapport à ce qu'on pense pouvoir faire potentiellement, chacun. Mais ouais, il faut pas rentrer dans cette, dans ce tort de vouloir trop regarder les autres, quoi. De trop vouloir se comparer aux autres. Il faut vraiment être soi-même et avoir l'intention de faire ce qu'on pense pouvoir faire. Voilà.
C'est Stéphane Brognard qui disait que dans une autre des émissions que si le pilote de la Clio il était déjà à l'arrivée, comment est-ce qu'il allait conduire le bonhomme qui doit aller à l'arrivée? Donc c'est vrai qu'on doit être avec soi, ici et maintenant, et écouter ses pas, voir l'environnement dans lequel on est, penser à sa course, et puis le reste, ça viendra.
Ouais.
Alors ça fait un petit peu rire que tu dises que tu es une bique en descente. par rapport à d'autres, c'est vrai que tu dois quand même pas être parmi les plus mauvais.
Ah, tout est relatif. Quand je dis ça, c'est par rapport à ceux qui ont mon niveau de performance. Je suis une bille. Enfin,
on a tous nos points forts et nos points faibles, hein, de toute façon. Ou nos axes d'amélioration, n'est-ce pas, comme on dit.
C'est des axes d'amélioration, effectivement.
Alors, il y a Flore qui nous demande si tu as une anecdote à nous raconter sur ce GR10, quelque chose peut-être qui aurait été un petit peu original, un petit peu marrant, alors j'imagine que tu en as forcément vécu. Et quel est l'endroit le plus wow que tu aies vu dans nos belles Pyrénées?
La deuxième question, j'y répondrai pas parce que tout était magnifique. Tout était différent, mais tout était splendide, franchement. Et il n'y a pas un endroit acheté. Franchement, il n'y a vraiment pas un endroit acheté. Alors, il y en a que j'ai mieux vécu que d'autres parce qu'il y en a que j'aime vraiment pas. Enfin, par exemple, le tour du Canigou, moi qui n'aime pas les cailloux là-bas, c'est que des éboulis. Enfin, franchement, c'était atroce pour moi. Mais c'était magnifique malgré tout. Mais je l'ai mal vécu parce qu'en plus, je me suis foulé la cheville et après, pendant 8 jours, j'ai eu une cheville comme ça, quoi. Mais non, tout était beau. Après, une anecdote à vous raconter, il y en a tellement. Ça va pas être spécialement marrant, mais c'est peut-être une des plus belles anecdotes, un des plus beaux moments humains qui me fait tellement plaisir, parce que c'est vraiment à cœur gros comme ça. Alors, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu Pasfa qui va me chercher un coca, des gars que je connaissais pas spécialement, qui m'attendent en pleine montagne avec une canette de coca parce qu'ils ont vu sur les vidéos Facebook que j'arrêtais pas de boire du coca. Et du coup, ils arrivent à 3 heures de leur voiture avec leur coca, ils m'attendent sur le milieu du chemin. Enfin, des trucs fabuleux. Mais au milieu de l'Ariège, Je ne vais pas offenser les Ariégeois parce qu'ils en sont fiers. L'Ariège est quand même assez reculé, pour ne pas dire paumé. On n'a pas de réseau, on n'a rien là-bas. Voilà. Et je suis arrivé dans un hameau qui était paumé au milieu de l'Ariège, qui elle-même est paumée. Imaginez le truc. J'étais avec notamment Florian et puis Nico d'Armaillac qui organise normalement la Skyrun qui devait avoir lieu ce week-end mais qui ne va pas avoir lieu à cause des conditions, malheureusement. Et là, on arrive dans un hameau, il y a trois maisons, et puis on avait plus d'eau, il faisait très très chaud, une chaleur à crever. On avait 4 km plus loin, il y avait notre ravito, enfin il y avait mon ravito qui m'attendait, mais c'était 4 km plus loin, il faisait vraiment très chaud. Et là, Florian, il va trouver un robinet, pas d'eau au robinet. Il y a un jeune qui débarque, il dit « Ah, vous voulez de l'eau ?» Il nous prend toutes nos bidons et tout ça, il va le remplir. Pendant ce temps-là, il y a un papy qui arrive. Il dit « Ah, vous voulez manger quelque chose ?» Ouais, on a vu qu'il y avait une auberge ou un truc comme ça. « Ah, bah faut aller là-haut, monter. » Et puis, il y a la vieille dame qui était là-haut. « Ah, mais montez, venez à l'ombre. » Donc, Nico monte et tout. Et puis, au final, se trouvait que c'était pas forcément un refuge ou autre, c'était juste des privés. Donc bon, Nico, il redescend, on continue à parler avec le papy. Et là, on voit une jeune fille, une petite blondinette qui devait avoir 8 ans, qui descend les escaliers avec à la main une assiette. Et dans cette assiette, plein de tranches de pastèques bien fraîches qui sortaient du frigo. Je vous laisse imaginer, quand on est en plein Cagnac, il fait hyper chaud, à voir ça. Et la petite fille, elle nous donne ça. Et donc, nous, on était 4 à ce moment-là. On frue, on dégomme, on dévalise, on se goinfre de ces pastèques. J'ai pas d'autres mots. Et voilà, en 2 minutes, il n'y a plus de pastèques dans l'assiette.
C'est un oasis dans le désert, ton histoire.
Ah, mais carrément, mais c'est vraiment ça, c'est le mirage, quoi. Et là, on les remercie et tout. Et en fait, on apprend en repartant que c'était l'entrée de leur repas personnel, quoi, qu'ils nous avaient offert. La petite fille qui nous apporte ça, enfin, c'est une bienveillance, une gentillesse qui est vraiment juste exceptionnelle, quoi, et qui fait tellement chaud au cœur. J'en ai encore la chair de poule, rien que d'y penser.
Je l'ai aussi.
Et moi, je suis super heureux d'avoir vécu cette expérience-là, parce que c'est pour ça aussi pour vivre ce genre d'expérience qu'on fait ça, quoi. Et surtout avec la fatigue, avec la chaleur, quand là, j'en étais peut-être je devais être au milieu du troisième jour. Et j'étais, voilà, commençais à être un peu fatigué quand même, le bonhomme. Et enfin, ouais, c'est juste fabuleux. Et des exemples comme ça, il y en a tout le long du chemin. Et donc, c'est pour ça, c'est une anecdote, mais des souvenirs comme ça, c'est tout au long du. C'est pendant 900 km, enfin 887 km que c'est comme ça, quoi. C'est super.
Mais c'est vrai que c'est hyper inspirant ce que tu racontes, parce que même, et ça, c'est quelque chose qui du coup me rassure, parce que même quand on est dans un cadre ultra préparé comme ce que tu as fait, c'est quand même très structuré ce que tu as organisé. Ça doit être beaucoup beaucoup de travail d'organisation, de préparation, on change les plans, etc. Et pour battre un record comme ça, ça demande de la préparation et de l'organisation, surtout quand on n'est pas que tout seul, il y a des gens qui nous accompagnent pour le faire. Donc, et malgré tout, on arrive quand même à avoir ces histoires, parce que quand on part comme ça à l'aventure, on dit toujours que les réponses viennent en chemin. On ne sait pas forcément toujours comment ça va se passer, comment on va s'organiser pour contrebalancer des fois des petites galères qu'on a. Et pour autant, les réponses viennent toujours en chemin, on arrive toujours à se débrouiller, à se sortir de galères qui seraient vraiment où si on se disait ah, je vais être cette galère là, mais en fait on a toujours la réponse. Et ça, c'est quand même super chouette dans ce genre d'épreuve qui finalement ça, c'est ça qui fait aussi l'intérêt d'aller sur des grosses distances comme ça, parce que sur un trail officiel, peut-être qu'on rencontrerait moins ça, du moins sur des traces où il y a beaucoup de monde.
Et ça me fait penser un petit peu, pour revenir à la définition de l'aventure, je mettrai dans cette définition de l'aventure un terme qui est quand même hyper important, je trouve, pour moi en tout cas, c'est l'adaptabilité. À partir du moment où on fait rentrer de l'adaptabilité dans une épreuve, pour moi déjà on commence à être dans de l'aventure, parce que on est obligé de s'adapter aux conditions qu'on a. C'est pas quelque chose qui est forcément tout chronométré, même si là, avec toute la préparation que j'ai fait sur ce truc-là, forcément de l'adaptabilité, il y en a eu 10, 20 fois par jour, quoi. Il a fallu que je m'adapte aux circonstances. Et ça, c'est important. Et pour en revenir au chemin, comme tu disais, je serais même tenté de dire maintenant que le record, peu importe. Et c'est pas ce que je retiens, en fait, de l'aventure, moi. Moi, ce que je retiens, c'est tous ces moments-là. Alors, effectivement, les paysages, parce qu'en plus, quand on est dans l'effort physique intense, comme je l'ai vécu, les paysages, ils ont toujours une saveur bien plus importante. Et surtout, on voit un coucher ou un lever de soleil en pleine montagne, où on voit des paysages superbes, des lacs et tout. Ça a une saveur vachement décuplée. Mais, euh, Mais en plus, quand on a des rencontres comme ça, franchement, après, record ou pas, ça reste anecdotique au final.
Franchement, de toute façon, le record, c'est les autres qui vont le retenir parce que c'est l'image que les autres vont avoir de toi. Alors que toi, tu as, et ça, c'est pour toi, et ça a une valeur qui est complètement inestimable. Tous ces, comme tu dis, tous ces souvenirs qui sont juste à vivre, et même en les racontant, moi, j'ai eu les frissons quand tu me l'as raconté. Mais malgré tout, j'imagine que toi, tu les as eu fois mille, les frissons. Ouais, et ça, des anecdotes comme ça, c'est hyper, hyper, hyper valeureux. Enfin voilà, il y a beaucoup de valeur dans ces anecdotes et dans ce vécu.
Et puis même, enfin, si on revient sur la notion de record, enfin, sur un truc comme ça, qu'est-ce que ça veut dire record? Alors oui, effectivement, il y a une performance parce que traverser les Pyrénées en moins de 10 jours, oui, c'est beau, j'en suis fier, c'est clair. Mais bon, déjà, les records sont faits pour être battus. Et puis sur un truc comme ça, les conditions, elles sont forcément toujours différentes. Donc, entre celui qui bat ton record et puis même, alors les conditions météo, les conditions même de parcours, parce que le GR10, il évolue. Hein. Moi, il y a des moments où je suis passé sur ma carte, il fallait passer par là. Et il se trouve que les gars, ils étaient en train de déballer, enfin, les bénévoles qui s'occupent du GR, ils étaient en train d'effacer les anciennes marques pour faire un autre chemin du GR, quoi.
D'accord.
C'était après Bolker. Moi, je prends la nouvelle trace parce que je voulais suivre le GR, donc je prends la trace qui venait de tracer, quoi. Donc, c'est en évolution constante. Donc, voilà, on parle de record, mais c'est évolutif. Et puis, moi, j'ai eu l'organisation que j'ai eue. Une autre personne aura une autre organisation parce qu'il aura beaucoup plus de moyens ou, à contrario, il en aura beaucoup moins. Mmh. Et ça, donc, voilà, il faut prendre de manière mesurée cette notion de record sur quelque chose comme ça. C'est déjà, ce n'est pas des records, c'est des meilleures performances mondiales parce que ce n'est pas dans les mêmes conditions. Et puis voilà, ça donne une valeur de ce qu'on a fait, mais c'est pas, voilà, il faut le prendre quand même de manière mesurée, quoi.
D'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je parlais avec Sébastien Lachon, avec qui a fait qui est plus dans le mode autonomie complète. Voilà, c'est vrai que chaque personne qui va s'engager sur une aventure n'aura pas les mêmes conditions. Donc c'est très très juste de souligner ce que tu viens de dire. Tout à fait. Alors Samedi qui nous demande si tu arrives à gérer ta vie sportive et vie familiale sans frustration.
Non, parce que je le vis avec eux. Là, pour exemple, sur le GR10, c'est ma femme qui me faisait mon assistante, donc elle a vécu l'aventure avec moi. En plus, elle est passionnée, heureusement, parce que sinon on ne serait pas resté ensemble longtemps. Mais voilà, elle est passionnée et je suis super heureux quand à la fin elle me dit moi tu m'as fait vivre des émotions énormes. C'est vrai que on vivait ensemble cette aventure. En plus, là, justement, contrairement à un trail comme UTMB ou autre, qui dure pour moi 23-24 heures, là, c'est 10 jours et où je m'arrête quand même de temps en temps, où on discute, où on vit des choses fortes. Quand on se retrouve dans le camping-car le soir, que je suis claqué, ou quand c'est elle qui me réveille le matin et que c'est un enfer, parce que pour moi, c'était mes moments les plus difficiles de toute la traversée, ces réveils. Et quand elle me réveille et tout. Enfin, c'est des moments uniques, quoi. On vit vraiment des moments uniques. Alors, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de passionné à mes côtés. Et voilà, donc ça se passe bien, quoi. Et on essaye d'intégrer les enfants. Bon, là, c'était peut-être une erreur, parce qu'ils étaient un petit peu jeunes. Et du coup, c'était pas forcément du plaisir pour eux. Peut-être que plus tard, ils s'en rappelleront et ça leur remémorera des bons souvenirs. Mais là, j'ai emmené mes deux grands garçons. Mes deux grands garçons, ils ont 7 et 10 ans. Donc, c'est voilà. Mais là, ils n'ont pas beaucoup dormi et ils ont suivi le truc. Bon, si on leur demande si ça leur a plu, pas forcément. Mais je pense que ça leur gardera des trucs en tête. Mais on essaye de le partager, de le vivre ensemble, quoi.
D'accord. Ouais, donc, c'est vraiment une aventure familiale, finalement. Ouais. Donc, il n'y a pas de sacrifice, finalement, de la part de l'un ou de l'autre et de frustration, du coup. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on constate souvent dans les performances comme ça. C'est souvent des choses qui sont vécues en famille. Comme je recite encore une fois, par exemple Antoine Guillon, qui c'est pareil, il a sa femme qui l'accompagne, François Denne aussi a sa femme qui est très présente. Voilà, il y a beaucoup de, c'est quelque chose qu'on voit souvent finalement chez les élites, d'avoir la famille en fait qui est très investie autour de la pratique. On a aussi Nathalie Mauclair qui est, du coup c'est l'inverse, c'est son mari qui est très investi avec elle. Donc c'est vrai que quand on arrive à trouver cet équilibre là, et ça je pense que c'est quelque chose qui est, si la question est posée, c'est pas pour rien en fait. C'est peut-être qu'il y a quelque chose, souvent des frustrations de la part des gens qui n'ont pas ça. Et ça, c'est quelque chose qui est à rechercher, à trouver cet équilibre-là, parce que c'est vachement important personnellement et familialement.
C'est ça, c'est un équilibre, c'est ça. C'est faire des compromis et c'est d'essayer. Tu parlais de chemin tout à l'heure. c'est clair que c'est quand même mieux si dans une même famille on avance un peu sur le même chemin, quoi. Sinon ça commence à devenir difficile, hein. Et après c'est une question de compromis, que tout le monde s'y retrouve, que de vivre les choses de la même manière. Moi initialement mon projet était prévu pour début juin, puis au final je l'ai pas fait début juin avec les conditions sanitaires, je savais pas si tout le monde pourrait venir et tout ça. Ma femme début juin n'aurait pas pu venir. On aurait dû partir en juillet en vacances ensemble. Au final, elle dit bah non, mais de toute façon, voilà, on pourra pas partir en vacances parce que c'est trop compliqué. Bah j'ai fait le en juillet, puis comme ça, moi je pourrais être là, quoi. Et du coup, elle a pu être là et ça a été fabuleux, quoi, parce que on n'a pas vécu des vacances reposantes, ça c'est clair. Mais on a vécu une expérience formidable, quoi. On l'a vécu ensemble. Non, après, ça, c'est vrai que ça peut paraître aussi un petit peu égoïste parce que l'aventure quelque part, c'est moi qui cours, c'est moi qui ai vu des paysages. Enfin, qui a vu quand même pas mal de paysages magnifiques et tout ça, mais on l'a quand même vécu ensemble, quoi. On a essayé de courir ensemble quelques fois, on a fini ensemble, on a voilà, et ça c'est des moments uniques, quoi, de partage, c'est sympa.
Mais je rencontre beaucoup de gens, hein, qui aiment ça, ce côté accompagné, être un petit peu finalement aussi au service de l'autre, parce qu'il faut avoir ce sens du dévouement et du service, et avoir une personne qui est capable de nous accompagner comme ça, c'est quelque chose qui a une très très grande valeur. Et ça peut ne pas forcément être le conjoint, ça peut aussi être un ami. Donc j'invite les gens à chercher en fait ces personnes-là qui aiment. Il y en a, hein. je vous assure, il y en a.
Ouais, je fais une préparation, enfin une formation pour être préparateur mental parce que c'est quelque chose qui me passionne. Peut-être déjà un petit peu saisi, mais une prépa mentale qui s'appelle méthode Target. Et en fait, le modèle de performance mentale de la méthode Target, il s'appuie sur une structure, sur un socle de trois blocs. Et dans ces trois blocs, on retrouve l'estime de soi. On retrouve l'énergie, le potentiel énergétique qu'on peut mettre pour une action, et on retrouve les émotions. Et les émotions, ça fait partie de ce socle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce socle il est déstabilisé, tout le reste de la structure, la concentration, tout ce qui est au-dessus, ça s'écroule. Bah c'est un peu ça. Et le côté émotion, c'est ça, c'est aussi tout cet environnement, toute cette systémique humaine qu'il y a autour de nous, qui nous permet de nous motiver, d'aimer ce qu'on fait et de performer, parce que à partir du moment où on est dans un couple et qu'on voit que l'autre, il s'épanouit pas dans ce qu'on fait parce que ça lui fait chier qu'on parte s'entraîner, machin, tant de temps et qu'on parte en compète et puis voilà, qu'on fasse chacun d'autre. Il y a une frustration qui se crée au fond de nous-mêmes et du coup, on pourra pas être performant au niveau où on pourrait l'être. Donc c'est important de trouver cet équilibre, comme tu le disais, global au niveau émotionnel, parce que c'est ce qui contribue. Moi je sais que ce soit sur 24 heures ou n'importe quelle course, quand j'ai du monde, des amis ou autres qui sont sur la course, mais ça me transcende complètement, quoi. Et si j'ai fait ce temps-là sur le JR10, c'est parce que je l'ai partagé, que j'étais accompagné. Je l'aurais fait tout seul, j'aurais pas eu le même plaisir. Et du coup, la même performance au final, parce que le plaisir, c'est partie intégrante de tout ça, quoi. Ça fait partie, c'est le plaisir, c'est une émotion.
Alors, je suis très content que tu parles de la méthode Target, parce que j'ai acheté tous les cahiers de la méthode. Et,
je suis en train de le bosser.
Ouais, je vois bien le pavé.
Et j'ai tous les deux côtés à bosser.
Voilà, il y a un petit peu de boulot et je louche aussi sur la formation qui propose. J'en ai une autre de formation de préparateur mental, mais ça me tente bien quand même d'aller vers chez eux, donc ça met de l'eau dans mon moulin, cette histoire.
Ah, c'est bien, franchement c'est intéressant.
Il y a tellement de choses à découvrir, et puis même au-delà de la pratique sportive, en fait, on se rend compte que ça s'applique à énormément de choses de la vie.
Professionnel, familial, ça s'applique dans tous les milieux, quoi. C'est ça qui est fabuleux avec la PM, la préparation mentale, c'est que ça se décline sur tout.
Évidemment, j'adore aussi. Alors, tu vois, comme je te le disais au tout début, une heure, ça passe très vite. Tu vois, quand je viens de regarder le chrono, ça fait 56 minutes qu'on est déjà ensemble. Moi, je voudrais maintenant savoir un petit peu sur ta vie. Du coup, comment est-ce que tu arrives à... Déjà, est-ce que tu vis du trail et quel est ton avis sur comment vivre du trail, en fait, enfin, pour ceux qui veulent en 2020, parce que c'est un sujet qui est revenu assez récemment dans le milieu de la route, où c'est du athlète, je crois, qui a un petit peu protesté sur... Comment ?
Benjamin Choquer.
C'est ça, exactement. J'avais plus son nom en tête, merci.
Un bon copain, il est adorable comme tout.
Voilà,
il est prisonnier olympique sur marathon d'ailleurs.
Voilà, et qui a mis un petit peu un pavé dans la mare sur justement ce côté vif de sa pratique en tant qu'élite. Toi, comment est-ce que tu vis ça?
Alors moi, déjà, je gagne pas je gagne pas un euro sur le trail, même pas un seul centime, j'allais dire centime, mais oui, je gagne pas vraiment. Je gagne absolument rien du trail. Hein, les partenaires que j'ai, ça me permet de boucler mes objets, enfin de faire mes objectifs, vraiment. Après, moi, j'ai absolument rien du tout là-dessus. Alors moi, j'ai bien suivi effectivement l'affaire Benjamin Chocard, notamment parce qu'il a fait le lièvre de Mofara sur sa tentative de l'heure. Donc, il a été lièvre de Mofara. Donc, c'est un très très bon coureur hein, quand même, Benjamin. Et moi, j'aime. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans la trop trop loin, mais moi, je trouve qu'en France, enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, en fait, on développe pas forcément le sport de haut niveau, quoi, parce que on donne pas forcément les moyens aux athlètes pour réussir. Et à contrario, on s'étonne après, ah ouais, mais au JO, on n'a pas fait tant de médailles, on n'a pas fait de médailles. Et si on donne pas des moyens, si on donne pas de moyens, on peut pas demander à quelqu'un qui. Moi, j'ai cette image de cette athlète qui faisait du 1500 mètres. Une athlète donc qui faisait du 1500 mètres et pendant les JO, alors ça fait quand même un peu de temps, hein, c'est peut-être qu'il y a 12 ans, 12, 16 ans, je sais plus. C'était un reportage où l'athlète, elle bossait chez Decathlon, pour pas citer, elle bossait chez Decathlon à temps plein et elle était aux Jeux Olympiques sur 1500 mètres. C'est quand même assez exceptionnel parce que déjà pour faire les minima, c'est pas la première venue qui le fait ou le premier venu qui fait les minima en athlétisme pour faire les JO. Et elle bossait à temps plein à côté. Comment c'est possible, quoi? On demande des médailles, on demande des choses, on demande à développer le sport et il n'y a pas de moyens. Moi, j'ai été champion du monde, je n'ai pas gagné un euro. Après, c'est du trail, c'est machin, effectivement, mais moi, je trouve ça, quand on voit, alors j'ai vu un article aussi sur Xavier, là, oui. Dans l'équipe, là, sur ça aussi. C'est a priori la première année où il gagne sa vie. Et effectivement, ils doivent être deux ou trois à vivre vraiment du trail en France, quoi.
Quand on voit. Est-ce que tu penses que ça va pas aller vers le haut, cette histoire, parce que ça commence à bien prendre le trail.
Le trail,
les sponsors.
Le trail, il y a 10 ans, c'était déjà bien pris. Après, je pense que les bénéfices sont peut-être pas répartis de manière homogène.
De façon homogène.
par rapport à tout le monde, entre les marques, entre les organisateurs, entre tout, quoi. Les primes sur les courses, la première fois, parce que ça fait pas, entre guillemets, partie de l'esprit trail. Mais qu'est-ce que l'esprit trail, déjà? Je pense qu'on peut très bien gagner sa vie sur du trail en ayant l'esprit trail. Et il y en a qui gagnent des sous sur le trail. Je pense peut-être à François Daen, par exemple, et qui est un très bon ami aussi. Et qui ont certainement plus l'esprit trail que des amateurs qui se disent avoir l'esprit trail. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion d'esprit trail? Je pense que c'est pas un vilain mot que de dire je gagne des sous de ma passion ou d'une chose. À partir du moment où la personne s'investit, à partir du moment où la personne elle bosse pour une marque parce que elle représente une marque et puis qu'elle du coup elle fait vendre des chaussures ou des trucs d'une marque, c'est normal qu'elle soit rétribuée, quoi. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Sinon, là, pour le coup, je trouve que du point de vue de la marque, c'est un peu gonflé d'encaisser et que l'athlète qui le représente et qui fait sa promotion touche rien, quoi. C'est voilà, ou la compétition ou la course qui va avoir un ambassadeur sur une course ou un truc comme ça et puis qui va rien lui donner, qui par contre va encaisser les inscriptions parce qu'elle sert de l'athlète. Non, enfin pour moi, il y a un déséquilibre quelque part. Donc, enfin après, c'est juste mon opinion, hein, mais non, je pense qu'il faut être honnête. Après, si la personne elle contribue au développement d'une compétition, au développement d'une marque, au développement de quoi que ce soit, ou qu'elle a une image, voilà. Après, c'est toujours pareil. On va se plaindre. Là, je mets encore un plus gros pavé dans la mare. On dit ouais, le foot, machin, il gagne des millions. Bah ouais, mais les gars, si tu regardes la télé, c'est grâce à toi qu'il gagne des millions. Hein. Tu regarderais pas la télé, il gagnerait pas des millions. Hein. S'il gagne des millions, c'est parce que ça intéresse des milliards de personnes. Donc voilà, et c'est tout à fait normal qu'il gagne des millions. Enfin, moi, ça me choque pas. Je t'en permets mes mots. C'est vrai que gagner des millions quand tu joues au foot et puis tu as d'autres sportifs qui se, qui se défonce autant, voire plus, et qui gagne zéro, il y a peut-être un déséquilibre aussi. Mais à la fois, bah, les médias, ils sont sur le foot, ils ne sont pas sur d'autres disciplines. Donc, c'est hyper complexe aussi comme sujet. Donc voilà, après, non, moi, ça ne me choque pas que des athlètes gagnent des sous. Moi, perso, je n'en gagne pas. Malheureusement, j'aimerais bien, notamment, j'aimerais bien trouver des sponsors. Je fais un clin d'œil s'il y en a qui sont intéressés pour faire des aventures et pouvoir les faire, parce que les projets que je pourrais avoir en tête, clairement, ils seront viables que si je suis, pour le coup, professionnel, que si je gagne ma vie là-dessus. Parce que là, pour le coup, déjà la traversée des Pyrénées, pourtant, c'est à côté, tout ça. Bah, j'ai trouvé des sponsors juste pour mener à bien mon aventure dans des conditions très bonnes. Mais après, si c'est... je prends la Pacific Crest Trail, par exemple, qui traverse les États-Unis par la Sierra Nevada, donc par la côte ouest, sur la chaîne de montagne. Ça, c'est pas 10 jours, c'est 45 jours. Donc, la préparation, elle va avec. Là, pour préparer les Pyrénées, c'est 10 mois de préparation. Effectivement, c'est que 10 jours de course, mais c'est 10 mois de préparation. Et en récup, ça fait 2 mois que c'est fini, j'ai toujours pas récupéré. Hein. Donc, c'est pas le genre de truc qu'on fait tout de suite. Donc là, c'est clair que pour s'engager sur des projets comme ça, ben, y a pas d'autre. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen. Quand on va dans un esprit de performance, toujours pareil, et d'optimisation, il n'y a pas d'autre moyen que d'être professionnel. Ou alors, c'est que le gars, il vient pas de terre, quoi.
Donc voilà. Moi, j'ai absolument aucun problème. C'est pareil avec l'argent et avec le fait de gagner de l'argent quand on apporte quelque chose à quelqu'un. Et pour moi, en fait, je trouve que c'est incroyable parce que vous apportez justement, comme tu le disais, de la visibilité, mais aussi vous apportez une part de rêve. Vous apportez du rêve aux gens. Ça fait rêver, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et je trouve ça vraiment dommage que vous puissiez pas en vivre en fait de tout ça, parce que ça permettrait de faire encore plus rêver les gens, tu vois, comme tu le dis. Et je suis assez d'accord. Après, c'est toujours pareil, c'est l'offre, la demande, le marché. Je suis pareil que toi. C'est logique qu'un footballeur gagne autant d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, alors qu'un trailer, comme tu le disais au début, bah toi tu peux traverser la rue dans Nantes, même si tu as été champion du monde, alors que Fabien Barthez, il peut pas traverser la rue, quoique peut-être maintenant, mais
moi c'est vrai que
il y a une voiture qui peut pas, lui. écoute Eric, on arrive à la fin. Alors je suis désolé parce que j'avais beaucoup de choses à te demander. Il y a eu des questions que j'ai pas pu
j'ai encore 10 minutes, ouais.
Ok, ça marche. Alors y a Floyd qui nous demande si tu as des projets de participer à la Barclay. Est-ce que c'est un type de course qui t'intéresserait?
Pourquoi pas, ouais, ça me plaît. Ben là, pour le coup, c'est une aventure, parce que là, je pense que justement en termes d'adaptation, là, ça a l'air costaud. Mais ouais, pourquoi pas. Après, ce qui est le plus contraignant, c'est les modalités pour le faire, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Enfin, tout le monde le fait pas. C'est quand même très restreint. Mais oui, carrément, ouais, carrément. Moi, j'aime bien un peu j'allais être vulgaire. Les défis stupides, pour être plus poli.
Guillaume disait les défis débiles. Alors.
j'allais employer un truc un peu plus vulgaire. Non, mais les trucs qui paraissent stupides, des trucs de fou, un peu fou, quoi. Moi, j'aime bien. Hein, je trouve que c'est sympa. Et puis, Laz, il a un état d'esprit assez, assez sympa, je trouve. ouais, le personnage. Et puis même les idées, quoi. Les idées qu'il a, ouais, c'est top. Hein, c'est top.
Et sans aller jusqu'à la Barclay, en France, en ce moment, on voit avec. Les amis de Try the World qui organisent les courses en boucle, là, l'Infinity Try. Ça, c'est un genre de course qui peut t'intéresser aussi, j'imagine, toi qui es spécialiste de 24 heures.
Bah, d'ailleurs, ils m'ont proposé d'y participer. Malheureusement, ce week-end-là, c'est en octobre, ça doit être le 17 octobre, je crois, 17-18 octobre. Et malheureusement, c'est Run on Your Backyard, je crois, un truc comme ça.
C'est ça, ouais. C'est. Je ne sais pas qui est autour de l'île d'Aix.
De l'île d'Aix ?
Ouais, il n'y a pas un autour d'une île, je ne sais plus laquelle c'est.
Ah, je ne sais plus, mais. Non, ça me tenterait bien, ouais, carrément. Ouais, ça me tenterait bien de tenter. D'accord. Ça.
Bah, je pense que tu serais plutôt compétent, en plus, là-dedans, avec ton expérience.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas m'avancer, mais oui, c'est possible.
Alors On a une autre question. Comment lutter de la meilleure manière contre le sommeil en ultra? C'est mon défaut. Merci et bravo Eric.
Bah, merci pour la question. Mais là, c'est... Enfin, moi, j'ai du mal. Alors, sur UTMB, sur ce genre de course, ma période qui a été difficile, ça l'est moins parce que j'arrive à mentalement notamment le travailler. C'est entre 2h et 5h du matin où j'ai tendance un peu à piquer du nez. Mais j'ai entre guillemets l'avantage ne pas mettre, enfin je mets 23 heures quand je fais un UTMB quoi par exemple, donc il y en a qui font deux nuits, moi j'en fais qu'une, c'est déjà pas mal une nuit hein, mais ça passe assez vite au final, on arrive à lutter assez facilement sur le truc. Après ceux qui font plus de 30 heures ça commence à devenir costaud et là je suis admiratif hein. Il y en a qui font voilà, j'ai même une copine là qui avait fait avec sa mère, qui avait fait la diagonale des fous. Elle avait mis 61 heures et puis lors de la remise des récompenses, moi j'avais fait cinquième, enfin quatrième. Et lors de la remise des récompenses, je me demande vous avez dormi combien de temps et tout. Alors, on a dormi 1h30. Moi, ça me paraît incroyable, quoi, incroyable. Ouais. Je suis vraiment stupéfait. Surtout quand je la voyais, elle avait l'air fraîche comme tout, quoi. Ouais. Bref, mais non, c'est difficile. Après. Là, sur un truc comme le GR10, c'est encore différent parce que je faisais des étapes quotidiennes, donc je passais pas de nuit intégrale dehors, sauf la première, mais qui était similaire à un UTMB globalement. Mais après, je faisais pas de nuit intégrale dehors, donc j'avais quand même des petites phases de sommeil que j'avais calculées de manière à ce que ce soit suffisamment réparateur pour pouvoir repartir. Et après, quand on est en action, en course à pied, en tout cas, quand on est en action, on a tendance à se réveiller de par l'effort et de par le fait qu'on est en action, en activité, quoi. Donc voilà, après, c'est... Ouais. Non, j'ai pas trop de solutions à part se mettre la frontale dans les yeux pour se maintenir éveillé ou se mettre la tête dans l'eau pour se réveiller.
Non, se dire que ça va passer aussi.
Pardon?
Se dire que c'est un état qui va passer.
Après, il y a un rythme biologique aussi et que ça qu'il faut bien intégrer. Et c'est vraiment un moment à passer. Et c'est comme les problèmes digestifs ou autres. Il faut savoir que quand on part sur de l'ultra, on a forcément des moments de moins bien. Et c'est juste des moments qui sont temporaires, mais qui peuvent passer s'ils sont bien anticipés, s'ils sont bien travaillés en amont, mais s'ils sont bien vécus pendant l'épreuve. Et moi, je sais pertinemment, oui, un UTM. Maintenant, je sais pertinemment, avec l'expérience, j'avais du mal, comme je le disais, entre 2h et 5h du matin avant. Et je sais pertinemment que quand le soleil va se réveiller vers 7 heures du matin, biologiquement, je vais me réveiller moi aussi. Et après, je vais plus ressentir la fatigue. Mais vraiment, quoi. Et du coup, maintenant, cette phase nocturne passe beaucoup mieux parce que j'en suis conscient. Et je ne subis plus cette phase, je la vis. J'ai fait running yoga, là. Formation running yoga. Donc maintenant, je suis enseignant running yoga. Et c'est ça, en fait, la première mise en situation, la formatrice, elle nous disait, j'ai une grosse guêpe dans la maison. La formatrice, elle nous disait, ne subissez pas, vivez vos postures. C'est que de la terminologie. C'est comme la barre et le machin et tout, et la barrière et tout ça qu'on disait tout à l'heure. C'est de la terminologie, mais c'est hyper important. Quand on vit une posture, on la subit beaucoup moins parce que on est vraiment dans notre posture et tout ça. Quand on vit la phase où on a sommeil, on la subit plus. C'est une autre façon d'approcher les choses. Donc déjà, mais c'est de la prépa mentale, quoi. C'est pour ça que ça, c'est super important, quoi. Et que je le bosse. Parce que j'ai envie aussi de pouvoir préparer mentalement les gens, parce que c'est dans tous les domaines de la vie, ça peut vraiment nous faire franchir des caps énormes, quoi. Énormes.
Alors, c'est marrant encore ce truc, parce que running yoga, c'est un truc que j'ai vu aussi, et puis je me suis dit que ça devait être forcément intéressant. Non, mais vraiment, c'est pas pour.
Ça m'a semblé être.
Voilà. Mais c'est. Ouais. Je me suis dit que j'allais pas y aller parce que le yoga m'attire, c'est une pratique qui m'attire, mais bon, j'ai pas forcément le temps d'aller le faire, enfin, j'ai pas vraiment envie d'y passer du temps, mais pour autant ça m'attire. Est-ce que tu pratiquais avant d'aller faire cette formation ou pas?
Absolument pas, je ne connaissais absolument pas le yoga.
D'accord, ouais, c'est intéressant.
Mais moi je pars du principe que pour être performant dans un truc, j'anticipe, je vois une autre question, c'est et jamais de blessure. Ouais. Et j'anticipe, en fait, je pars du principe que, je disais tout à l'heure, je m'entraîne assez peu en course à pied. Ce qui me permet de durer dans le temps, parce que ça fait quand même 35 ans que je cours, maintenant à peu près, j'ai 40 ans. Donc ça fait plus de 35 ans que je cours, du coup. Et parce que je cours depuis voilà, tout petit, ça fait rire ma femme. Et j'arrête pas de le dire. Et si je me blesse pas, c'est vrai que ça fait quand même en course à pied. Bon, j'ai commencé l'Ironman en 2003, donc des volumes d'entraînement depuis 2003 qui sont conséquents. Ça fait presque 20 ans. Je me blesse, bien entendu. Mais je m'épargne quand même beaucoup parce que je cours assez peu au final en termes de volume de course à pied. C'est la course à pied qui est traumatisante quand même avant tout. Et puis parce que j'essaye de mettre en place d'autres choses, bah de la prépa mentale, du vélo, du renforcement musculaire, du running yoga parce que je suis convaincu que le running yoga, enfin j'étais convaincu que ça pouvait apporter beaucoup parce que j'étais beaucoup dans cette philosophie-là d'apport d'autres disciplines sur l'apport de la course, sur la performance en course à pied. Et moi, donc j'ai commencé la formation début d'année là. Mais ça m'a apporté énormément, quoi. Et pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais bon, le gars, il a quand même alors, c'est sans vouloir me vanter, c'est à chaque fois quand on me cite mon palmarès, toujours, parce que je me retourne jamais sur le passé, notamment là-dessus, et à chaque fois, c'est vrai que je dis, ah ouais, quand même, ouais, je peux être fier de ce que j'ai fait au final. Et on me dit, ouais, mais avec ce que tu as fait, ça ne devrait pas t'apporter beaucoup. Si, ça m'a apporté énormément, quoi. Là, sur le GR10, ça m'a beaucoup apporté, quoi, dans la posture, dans la façon de vivre l'effort, dans la prise de conscience de soi, de son corps, et dans tout, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Et pourtant, je ne pratiquais pas avant, mais ça m'a fait découvrir, et franchement, c'est super. Dans la prise de conscience de soi.
C'est Camille Thirémonier, je ne sais pas si tu connais,
ouais, qui a fait la formation ensemble aussi. Voilà.
C'est elle qui m'a fait découvrir ça. Enfin, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce truc-là et puis que j'ai trouvé ça intéressant. Donc, mais je me doutais que tu avais fait la formation avec elle. Bah, écoute, très bien, Eric. Merci beaucoup pour cet échange. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures et puis tous tes partages de ce que tu fais, ce que tu peux proposer aussi? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, bah, déjà sur Facebook, ouais, j'ai ma page Facebook, là où j'essaye de mettre des trucs régulièrement, voilà, qui sont pas. Alors, c'est pareil, moi, je suis pas professionnel, c'est moi qui mets les choses, c'est pas de la terminologie bien définie que je mets. Moi, je livre, je mets les trucs comme ça vient et avec, j'essaie de partager sans restriction de communication en me disant ça va là. Et puis, donc, c'est moi sur ma page Facebook et sur mon site internet, donc, qui est tout simple, hein, c'est www.ericclavry.com, donc, c'est tout. Et puis là, il y a pas mal de choses. J'essaye quand je peux de mettre des récits de course et tout ça. Là, j'ai bien avancé mon récit du GR10. Je vais essayer dans ce domaine-là d'essayer de publier un. Putain, elle est vraiment grosse cette gaffe. Essayer de publier un compte-rendu illustré parce que ma mère dessine beaucoup, a suivi l'aventure, donc elle me fait beaucoup de dessins. Elle en est à une quarantaine maintenant. Et l'idée, c'est de faire une page d'illustration, une page de compte-rendu et d'essayer de produire un truc comme ça pour partager, cette aventure d'une autre manière. Et puis voilà, quoi.
C'est elle qui a fait les dessins derrière toi, peut-être?
Elle en a pas fait, là, pour le coup. Non, c'est des copines, c'est ma tante, c'est des copines du lycée, donc ça date. Enfin, ouais, non, ça date.
Famille d'artistes, alors.
Non, et du coup voilà, c'est ça. Et puis ouais, je voulais dire sur mon site internet il y a aussi ce que je propose en termes de éventuellement running yoga ou prépa mental parce que je commence à m'y mettre et que ça me passionne, donc là j'essaye de développer ça professionnellement aussi.
Super, bah écoute, je mettrai tous les liens et pour ceux qui veulent retrouver Eric, bah, vous aurez tous les liens dans la description, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. De mon côté, n'hésitez pas à télécharger aussi mon bouquin, donc comment choisir ses chaussures de trail. Ça vous inscrira également à ma newsletter, donc vous recevrez aussi tout ce que je peux partager, donc comme des petits rappels, comme ce genre de rendez-vous, et d'autres conseils également. Et bah écoute, merci beaucoup Eric.
Merci à tout le monde.
Super, super sympa. merci beaucoup Eric pour ce moment. Merci à tous aussi encore une fois d'avoir été super actifs dans l'espace commentaire, parce que bah, sans vous, cette émission serait complètement différente. Ce serait un échange. Donc là, c'est vraiment super sympa encore une fois d'avoir des questions à apporter et puis d'avoir aussi d'autres choses que ce que moi je peux apporter. Donc c'est vraiment super enrichissant. Donc merci Eric d'avoir joué le jeu du live et des questions-réponses un petit peu sur le spontané. Donc c'était vraiment un super moment. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et puis on se dit à mercredi prochain avec un autre invité. Et on parlera de la Swiss Peak, ce qui a été aussi un sacré moment. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.